OK.
Donc, on va s'occuper du panel qui suit, notamment les abus et les protections du consommateur en réaction aux intérêts exprimés des membres des agences d'application de la loi dans les dernières années, et notamment un dialogue accru au sein de ces réunions ICANN, de manière à ce qu'on puisse avoir des communications positives et instructives qui ont à voir avec les soucis d'ICANN. Donc, on va avoir une demi-heure qui va nous donner leur point de vue concernant les problèmes dont ils ont eu à faire face et leurs propositions dans le domaine du crime. On va commencer avec la présentation de Paul. Qui nous vient du Royaume-Uni et il est le directeur du crime informatique. Merci. Donc, je remercie à ICANN de manière à me donner ce forum. Et il est certain qu'en une demi-heure, on ne va pas pouvoir tout couvrir. Mais je pense que comme on est présent toute cette semaine, on pourra avoir des dialogues en tête à tête. Et par exemple, dans le domaine du Royaume-Uni, il y a beaucoup d'aspects de l'Internet qui sont tout à fait négatifs. Et notamment dans le cas où il y a des économies qui sont basées sur les échanges Internet dans le domaine du commerce. Donc les TLD au sein d'ICANN et tout ça se sont accrus exponentiellement dans les dernières années et les agences d'application de la loi sont impliquées au maximum. Et étant donné que ICANN est une communauté globale, nous, on a également impliqué dans ce délibéré. Donc on a proposé des amendements au sein de la conférence d'ICANN et les agences ont développé des propositions de manière à identifier les risques qui ont supporté les groupes de travail particuliers dans beaucoup de pays, de manière à ce que la gouvernance et le paysage soient changés dans ce domaine. Je vais vous donner, par exemple, les problèmes dont nous avons à faire face. On en a déjà parlé auparavant, et qui démontrent un besoin de s'engager avec l'assistance de l'industrie spécifique. Certains de mes collègues vont en parler. Voilà les choses à faire pour amener les gens à la en justice. C'est un modèle qui, malheureusement, nous dit que les criminels changent très rapidement dans ce domaine du e-crime. La nature globale de l'Internet nous dit que les zones nationales peuvent nous aider de pays en pays, mais il n'y a pas de frontières particulières internationales dans ce qui concerne le crime cybernétique. Et évidemment, on a affaire à beaucoup de juridictions qui sont spécifiques à chaque pays, et cela nous pose des problèmes pour chasser les criminels dans des zones particulières. Par exemple, les règlements et le paysage changent de jour en jour. Il faut que les corps particuliers mondiaux puissent faire face aux criminels. Les agences d'application de la loi font leur maximum, mais on a malgré tout nous devons suivre l'Agence européenne des droits de l'homme, mais on ne peut pas se servir de l'anonymité dans ce domaine. Par exemple, on parlait auparavant du problème de l'anonymité. Ce n'est pas simplement sur les gens qui donnent des détails incorrects quand ils font un enregistrement. Il y a aussi des sociétés qui donnent des détails incorrects et cela va rapidement dans le système. Par exemple, dans le crime cybernétique, on a des exemples particuliers dans ce domaine. Par exemple, McColo. C'est un service blindé qui est basé à San José en Californie. Et c'est un problème majeur. Par exemple, il y a des gangs de criminels qui peuvent avoir des actions partout dans le monde sans pouvoir être inquiétés. Vous avez beaucoup de complaintes, mais vous devez payer de plus en plus pour avoir une protection spécifique là-dessus. En 2008, vous avez par exemple quelqu'un qui donne un service de transit. Par exemple, dans le modèle soviétique, dans le modèle russe, on a eu des problèmes. J'ai pris l'exemple de McColo. Vous avez peut-être vu, voilà l'espace McColo. Évidemment, ils ont beaucoup investi là-dedans. Mais c'est quand on gratte la surface, on voit qu'il est clair que McColo a mis ce service en pratique. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas des individus du temps passé. Ces criminels peuvent avoir des gains financiers extraordinaires. Et ils sont très intelligents. Ils savent comment l'infrastructure fonctionne. Ils savent quelles sont les polices. Et ils peuvent s'en servir contre tout le monde. L'échelle du problème est illustrée de la meilleure manière avec la fermeture de McColo. Voici le trafic de spam qui a diminué de 60% lorsque McColo a été fermé. On ne pouvait rien faire de McColo quand on était au courant, sans pouvoir des avenues légales à leur sujet. Par exemple, dans les noms de domaine, il y a un impact significant sur l'activité criminelle. Et la plupart ont fait des réponses rapides pour terminer la fraude en Estonie. C'est, d'après ce que je sais, il a fallu avoir une condamnation au niveau du tribunal pour pouvoir avoir des actions spécifiques sur la fraude. Les gens comme Estomain peuvent rester de nombreuses années, faire appel et fonctionner encore pendant longtemps. Cette illustration nous montre comment un gang criminel fonctionne dans les noms de domaine. Vous avez, par exemple, des problèmes avec les cartes de crédit. Et ils ont 10 000 membres. Vous pouvez imaginer comment on a des problèmes à arrêter 10 000 personnes. On pense que leurs associés, on donne des faux détails, donc on ne peut pas les identifier. Et on a du mal à arrêter ces activités criminelles.
Donc là, vous voyez cette installation technique et les criminels se servent de façon généralisée des registraires tout à fait légitimes Il y a également, c'est un système assez complexe dont la première fonction est de voler des mots de passe et d'usurper les informations de carnet. Et ceci dépend des fonctions des noms de domaine, mécanismes, dispositifs d'infection. Et ceci se servent de noms de domaine pour qu'il y ait une stabilité du Torpic. Il passe par un serveur de centrale et les noms de domaine sont générés automatiquement par un algorithme. Et ce nom de domaine de ce serveur principal change toutes les 20 minutes selon une séquence qui était programmée par avance. Et donc, il est impossible pour la police de suivre. Il est important de savoir que ces choses ces achats se font par milliers et des chaînes de caractères qui n'ont aucun sens. Et là, ça soulève quand même une question. Donc là, nous avons le Rockfish et Avalanche. Et ils sont dans les premiers du marché en matière d'hameçonnage. Et Avalanche, c'est le nouveau venu, mais le groupe de travail sur la noté une augmentation de 24% des hameçonnages. Rock, c'est un pionnier et se sert de la sécurité à face flux et double flux. Et encore une fois, Rockfish se sert de noms de domaine créés de façon par un algorithme. Et dans la plupart, il comprend des séquences alphanumériques précédées de noms de banques bien connues. Là, encore une fois, c'est une question, un problème. Donc, voilà donc le problème central. Ces détails sont proposés et donc à l'inscription, les coordonnées sont très limitées. Ensuite, une fois que le registraire se rend compte qu'on l'a volé, il y a déjà un changement. De nombreux registraires font des analyses, des vérifications sérieuses, mais sans réglementation de base obligatoire, les criminels continueraient de migrer vers les sites les moins protégés. J'ai pris trop longtemps, j'en suis désolée, mais 30 minutes, ce n'est pas très long. Ce que je vais vous demander, c'est qu'il nous faut votre soutien, votre assistance. Et on est là toute la semaine, venez nous voir. Merci. Je vais passer à André Koster, qui est avec l'unité suisse de lutte contre la criminalité cybernétique. Comme quelqu'un l'a dit ce matin, la confiance des consommateurs et la protection des consommateurs doivent être traitées. C'est que l'intervenant malveillant ne doit pas pouvoir passer sous le radar. Et donc ils ont des limites physiques, géographiques. Autrement, cette communauté Internet est mondiale. Et les lois, les polices pensent d'abord à la juridiction, aux lois. Et pour travailler au niveau international, il y a une procédure juridique longue. Tandis que la communauté a des politiques qui peuvent être mises en œuvre donc par elles-mêmes et qui peuvent déterminer leurs propres conditions d'exploitation. Mais c'est aux intervenants sur Internet d'appliquer ces politiques ils en sont responsables et ils peuvent également limiter cette responsabilisation sur les services qu'ils fournissent. La police, les autorités chargées de la police peuvent indiquer lorsqu'ils ont des indices concernant des conduites malveillantes, mais il nous faut des contacts. Si on attend qu'un jugement soit émis, il y a par exemple, l'hameçonnage, il faut que se fasse rapidement. Donc, je connais des cas bien évidents. On peut aller vers l'intervenant et les intervenants agiront. Mais ceci, par exemple, s'il s'agit de maltraitance des enfants, mais d'autres sites, par exemple, où il y a des publicités mensongères ou dangereuses ou qui cherchent à recruter, c'est plus difficile. et les intervenants s'inquiètent de leurs responsabilités. Mais on peut dire, vous pourriez ajouter à vos conditions que vous allez limiter votre responsabilisation en cas de soupçon d'action malveillante. Pour parler d'un cas très concret, d'une idée concrète, si vous soupçonnez un comportement malveillant, un registraire pourrait interrompre le service d'un serveur et ensuite demander des moyens d'identification. Et là, c'est déjà terminé parce que les criminels ne vont évidemment pas donner des informations exactes. Et si jamais ils le font, vous pouvez le faire savoir et le dire à la police, aux autorités, et qui pourront lancer une enquête. Cette procédure doit faire partie des conditions et c'est au registraire de décider de la façon dont ils vont traiter ces exemples. Enfin, je voudrais confirmer ce qu'a dit mon collègue, c'est qu'il faut travailler ensemble pour que l'Internet soit sécurisé. Si on ne travaille pas ensemble, si on n'échange pas là-dessus, on n'atteindrait pas cet objectif. Merci. Merci, Adrian. Dernier intervenant, et je reviens à Bobby Flem du FBI. Merci. Vous avez tous des accents différents, mais en fait, le message est le même. C'est que la lutte contre la criminalité ou la prévention contre la criminalité, le FMIF fait partie de 18 000 entités chargées de la police. Et c'est voilà une autre statistique, une toute petite proportion des pertes qu'on peut calculer. Rien que concernant l'utilisation de 1,8 milliard de dollars. Donc, vous pouvez imaginer l'ampleur des pertes financières qui sont liées à l'Internet. Donc, on ne fait partie que de 18 000 autres agences. Donc, je vais répéter également, je ne vais pas répéter, mais nous sommes là ensemble. En plus de la police fédérale australienne, la police de Nouvelle-Zélande, la police montée canadienne, Paul a parlé également, le groupe de travail GA. Nous avons trois principes. Ils ne sont pas nouveaux, vous connaissez déjà du groupe de travail anti-hameçonnage, et vous l'avez encore entendu, c'est vérification. Mais il y a trois principes. Le premier, c'est d'abord de faire des vérifications par avance, c'est que les registrants sont bien les personnes qu'ils disent être, que les responsables des entités qui administrent, qui gèrent le DNS, qui font bien ces vérifications avec sérieux, pour que l'information soit aussi exacte que possible. Deuxième principe, on en a déjà parlé de nombreuses fois, c'est que le WHOIS soit exact. C'est un de nos outils essentiels dans toute enquête. Vous vous en servez également. Et la question importante, là, c'est le coût. Et il doit pouvoir y avoir une méthode d'arriver à tirer à une conclusion sur ces questions de coût, parce que c'est un obstacle à résoudre pour pouvoir faire notre travail et faire que l'Internet soit sécurisé. J'aime le capitalisme. Tout le monde ne doit particulièrement subir ce coût. Tout seul. C'est quelque chose qu'il faut qu'on voit et c'est en fait une question de détail. C'est très difficile. Un autre principe, c'est la transparence et la responsabilisation et lesquels s'y intéressent. Nous voulons que toute personne qui sont sur les systèmes DNS, qui gère un système Internet, soit bien la personne qu'ils disent être, qu'ils respectent leurs contrats, que les registrants, les revendeurs, ICANN, que tout le monde contribue pour faire en sorte que on sache également avec qui on traite. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est un problème international, vous le savez déjà, mais il y avait des exemples spécifiques. Et Macolo et Rockfish, par exemple, ce n'est pas simplement au Royaume-Uni, c'est aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie. Donc, il faut lutter ensemble.
That's all I have to say for today, but welcome any comments and questions.
Right, so I do think we have a short window for any sort.
Donc, on a un peu de temps pour les commentaires et les questions du public à nos quatre représentants sur le panel. Y a-t-il des questions ou commentaires? Allez au micro. Hors micro, on ne peut pas entendre la question de la personne. On demande à la personne qu'elle pose sa question au micro. Paul Foudy, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a des raisons légitimes pour que les questions voient un nom de domaine immédiatement? Ça va prendre une semaine pour le mettre en place. Est-ce que vous avez le temps d'arrêter ceux qui veulent commettre des fraudes? Ou alors, est-ce que les gens peuvent changer de nom de domaine toutes les 20 minutes? Dans certaines des analyses qui ont été faites, il y a des raisons différentes pour la difficulté de la vérification des noms de domaine. Il est certain que, évidemment, pour vérifier que c'est un domaine malveillant ou pas, c'est difficile à prouver. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent apporter des solutions là-dessus. Dave, vous voulez faire votre commentaire? Est-ce que vous pouvez apporter votre contribution là-dessus? Il y a deux problèmes à considérer. Par exemple, avec le FastFlux, il faut changer la configuration INS de manière à ce que les gens ne sortent pas facilement des domaines. Une des choses qu'on essaye d'apprendre ou d'apprendre a à voir avec notre compréhension de considérer la valeur d'un domaine par la durée d'enregistrement. Il faut avoir également des mesures anti-hameçonnage qu'on puisse prendre par rapport à la durée d'enregistrement du domaine. Sinon, des gens vont enregistrer un domaine et vont le garder pendant un an. Donc, il faut qu'on continue à essayer d'arrêter ces fraudes, si possible. Juste pour revenir à ce que Dave disait, on en a parlé en profondeur, notamment au niveau global. Est-ce qu'on ne doit pas arrêter de faire quelque chose parce que ça ne va pas durer longtemps? Les gens s'adaptent très rapidement. Il faut essayer de les interrompre quand on les a sous la main. Il faut absolument arrêter ces voleurs dès que possible. Merci. Jonathan, pour l'association des technologies compétitives. Il est certain que tout ça, c'est complexe à travers les agences d'application de la loi, les juridictions différentes, les issues de souveraineté. Donc, la question est la suivante. Dans le contexte de l'ICANN, quelle est la juridiction d'ICANN? Est-ce que l'organisation ICANN puisse faire une chose pour vous faciliter le travail? Quelle est-elle? Oui, en fait, vous avez raison. C'est un problème complexe. La juridiction d'ICANN, personne dans le monde a la possibilité d'influencer l'Internet au niveau mondial. Et c'est pour cela qu'on doit contacter ICANN et l'industrie en général pour que les codes de pratique à mettre en place soient les clés de la résolution de ce problème. Par exemple, aux Nations Unies, veulent des règlements plus serrés ou alors administrés par les membres. Si les membres ne peuvent pas avoir de régulation personnelle, on n'a pas de règlement. Il faut que ICANN soit plus puissant dans le domaine de la sécurité. À mon avis, c'est une norme à appliquer pour commencer. Allez-y. Ma question a à voir avec la souveraineté. Par exemple, celui qui parlait au nom de la Suisse disait que les criminels, eux, agissent au niveau global. Par exemple, en Europe, on a des modèles de coopération accrue. Est-ce que vous pensez qu'il faut essayer d'avoir une coopération accrue au niveau mondial? C'est sûr. La communauté internationale travaille déjà dans ce domaine pour avoir des conventions de coopération plus serrées, mais également, on a beaucoup de temps pour les mettre en application. On a déjà en place les moyens pour faire face aux problèmes. Mais en tant que registrant, vos services sont pénétrés par des criminels, vous pouvez faire une plainte auprès des agences spécifiques, spécialisées. Ça prendra du temps, mais on vous répondra. Si un registrant annonce une conduite malveillante, les criminels vont s'en échapper. Donc on peut nettoyer la conduite criminelle au sein de l'industrie et vous pouvez annoncer les agences spécifiques doivent faire des enquêtes, des investigations. Et vous, en tant qu'usager, subit des dommages de la part des criminels, il faut absolument informer vos agences internationales de manière à ce qu'ils prennent des mesures. Par exemple, dans le cas de la Suisse, si c'est une organisation criminelle internationale, je peux mettre en rapport avec Bob et cela s'applique en-delà des frontières. Et donc, au départ, nous avons des données qui puissent être utilisées au niveau du pays. Et ensuite, on peut en parler à nos collègues sur le plan international. Évidemment, c'est dur de faire ça en temps et en heure. Christina, qui a à voir avec le conseil de la des marques déposées. Ce que vous m'avez dit m'a terrifié. Étant donné qu'on a une limitation dans les pouvoirs d'ICANN, et notamment en manière de contrat, voyez-vous des recommandations qui viennent de ces trois principes, à savoir pour les contrats des nouvelles GTLD, ou alors pour les registres, ou alors pour une troisième entité. Lorsqu'on a fait l'approche de ce problème, on n'a pas essayé de donner des solutions toutes prêtes. Selon support, et on voudrait qu'il y ait des normes minimales pour tout le monde, la sécurité sur l'Internet et se réfère au point dénominateur le plus bas. Les criminels, eux, voyagent. Donc, dans les principes qu'on supporte, il faut essayer d'être efficace sans que les dépenses soient trop importantes. Il est certain qu'il faut se pencher sur les problèmes de données, de transparence. Et je sais que ce n'est pas facile. C'est un appel qui vient du cœur. Mais en vous parlant, qui êtes des techniciens, imaginez d'expliquer ça à 12 membres d'un jury. Évidemment, c'est difficile. C'est très technique. Il y a d'autres gens qui nous viennent des panels. Donc, rapidement, je m'appelle Kim et je viens de la police internationale. Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est l'application pratique. Est-ce que les recommandations vont être appliquées, ou alors est-ce que au niveau des registres, ou est-ce que vous avez des problèmes, par exemple, où les noms de domaine en Corée sont vendus par les registreurs qui ne sont pas accrédités par ICANN et ils font leurs affaires privées sans passer par ICANN. Par exemple, avec d'autres registres en Roumanie, par exemple. Est-ce que vous êtes au courant de ces pratiques dans le cas où il y a des propriétaires de domaines bidons? Oui, avec les applications précises. D'abord, ICANN est impliqué en premier lieu. Et notamment, ils doivent être responsables pour les gens qu'ils accréditent en tant que registreurs. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de criminels qui soient en charge de registres. Et il faut également essayer d'avoir des registrants de domaines authentiques. Et il est certain qu'il faut valider les données en provenance du registrar. On pourrait en parler pendant longtemps et on en parlera plus tard. Merci.
Deux autres interventions. Thomas, je crois que j'ai bien compris. Donc, il y a beaucoup de bonnes intentions là, mais il y a une chose qui me fait trembler. C'est cette question d'Internet sécurisé. L'Internet, c'est un réseau à but généralisé. Il n'y a pas, ça n'existe pas de réseau sécurisé, comme il n'y aura pas de langue universelle dans laquelle on ne peut pas mentir. Donc, je pense qu'il faut faire très attention qu'on ne perde pas de vue la valeur qu'on a de contir de ce réseau vient entre autres de l'activité financière et économique, commerciale, qui demande peu d'investissement à des coûts très faibles, $6 le nom, un contrat d'hébergement à $30, etc. Et je peux commencer une entreprise. Et en fait, c'est tout à fait légitime, mais je peux le faire également dans le domaine non légitime. Mais je ne vais pas pouvoir appliquer à toutes ces règlements pour les transactions de plus de $10,000 à ces transactions qui permettent d'avoir une entreprise, qu'elle soit criminelle ou non légitime. Il faut vraiment faire très, très attention à ne pas commencer à faire des compensations, de faire que ce réseau soit sécurisé, mais en oubliant que c'est son utilité pour les activités sociales, commerciales, pour la science et pour le progrès humain. Est-ce que je peux simplement répondre à ça rapidement? Je sais bien qu'on ne va pas sécuriser l'Internet. Mais là où vous habitez, la police ne peut pas non plus sécuriser votre quartier, mais ils vont continuer d'essayer. En fait, vous ne voudriez pas qu'ils s'arrêtent à sécuriser donc cette, votre cadre de vie. Et si les gens s'inscrivent dans leur pays et également fonctionnent en dehors de l'Internet, ils peuvent toujours donner leur nom. Ils peuvent donner leur nom lorsqu'ils inscrivent une entreprise ou un domaine. Je comprends bien qu'il y a des limites. Et c'est pas moi qui vais dire ici qu'il va critiquer l'innovation apportée par l'Internet, qui est merveilleuse. Mais on arrive à un niveau maintenant où cette innovation et ces gains impératifs sont mis en danger par lorsque une infrastructure nationale dépend de l'Internet, il faut qu'il y ait une sécurisation. Voilà, c'est un point de vue personnel. Bruce, vous aurez la dernière intervention. Je vais commencer par faire une analogie qui est que je travaille pour un registraire, pour que vous compreniez bien. C'est quand même un supermarché. La plupart des gens qui vont au supermarché achètent des ingrédients pour faire de la cuisine, mais peuvent également acheter des couteaux. Et dans beaucoup de pays, en Australie en particulier, il y a un problème parce que les jeunes peuvent acheter des couteaux qui n'achètent pas grand-chose pour $1 ou $2. Et ça pourrait faire beaucoup de mal avec ça et même tuer quelqu'un. La plupart des supermarchés, parce que 98%, 99% des gens sont des clients légitimes. On ne veut pas évidemment vérifier votre pièce d'identité chaque fois que vous arrivez au supermarché et demander la preuve d'identité. Les gens veulent pouvoir facilement la commodité d'aller faire leurs achats et faire de la cuisine. De même pour les registraires. Ils veulent une interface facile, ils veulent les outils, les équipements dont ils ont besoin pour leur entreprise ou leur site Internet. Et donc, il y a un équilibre. Donc, qu'est-ce que fait le supermarché en matière de sécurité? D'abord, il met des caméras parce qu'il y a évidemment des vols à l'étalage. Et comme les registraires, il y a également un certain nombre de noms qui sont utilisés à mauvais escient avec des cartes de crédit volées. Et il y a un certain nombre d'opérations comme ça. Et le supermarché met certainement également un garde pour empêcher les vols à l'étalage et les opérations malveillantes. Et donc, il y a une équipe qui essaye de gérer un peu la malveillance. Et puis, il y a des caméras pour essayer de comprendre qui entre et qui sort du supermarché. Donc, en cas d'action criminelle, est-ce que vous pouvez voir ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un a acheté un couteau? Mais pour ICANN, donc, en fait, à une caméra. Les gens se déguisent, se couvrent le visage. Et donc, en fait, il faut regarder l'ensemble du système. Il y a un certain nombre de problèmes. Et s'il y avait une recommandation sur ce que les registraires doivent faire, c'est l'équivalent des vigiles. Et avec une sécurité minimum, ça ne doit pas gêner l'utilisateur, non, parce qu'il ne se rend pas vraiment compte des vigiles, des caméras. Ils viennent tout simplement pour faire leurs achats. Mais les gens mal intentionnés peuvent s'en rendre compte. Donc, il faut que les gens n'aient pas l'impression d'être envahis. On va pas prendre une photocopie de votre pièce d'identité. On ne va pas afficher, publier ce qui a été pris, filmé par la caméra. Donc, il y a une procédure et la police peut intervenir. Et là, on peut leur donner la bande, le film à étudier. Mais on peut aller à un niveau supérieur. Mais le véritable problème ici, c'est les questions de frontières internationales. Et c'est une bonne chose à signaler au syndicat. Mais c'est comment accréditer quelqu'un, par exemple en Australie, pour moi en Australie, donc quelqu'un qui est au Royaume-Uni, parce que comment savoir, comment on a bien l'équivalent Internet des films pris, et donc, mais on n'a pas vraiment mis en place de système pour le traiter. Là, vous avez une question qui va au-delà des frontières et c'est, je pense que c'est là qu'on doit faire en sorte pour donner, communiquer les informations que l'on a, non pas à tout le monde, mais à ceux qui peuvent l'avoir de droit. Et quel est le système de sécurité minimum? Quel est le niveau minimum du vigile et de la caméra? Il ne faut pas qu'il y ait un système qui soit si difficile que les gens ne puissent même plus rentrer dans le supermarché ou empêcher les gens d'aller en ligne. Bien, je crois qu'on va simplement faire la synthèse, la terminer ici. Je voudrais remercier tout le monde, ça fait déjà une demi-heure et la salle est toujours pleine, même s'il y a avec la réception à côté. Et donc, ça indique que c'est une chose importante. Et la participation des agences chargées de l'application des lois et vu les difficultés auxquelles elles font face, et la participation des collectivités INCAN. Veuillez apporter vos recommandations pour les choses qu'on peut faire et nous faire participer, comment les mettre en œuvre, comment mettre en œuvre les politiques qu'il faut de la façon qu'il faut. Merci à toutes les participantes et au panel. Merci.